Bravo pour votre exposé. Si j'ai bien compris, il y a donc une vie plutôt associative entre le corail, qui est un animal, et puis donc les zooxanthelles, c'est ça. Hein. Et quelquefois, j'ai entendu le mot une vie symbiotique. Bon, je pense que c'est plutôt une vie un peu comme le lichen, avec l'association dont algues et champignons. La vraie vie symbiotique, me semble-t-il, c'est donc un champignon qui vit avec une racine d'un végétal, où il y a échange de minéraux et de matières nutritives. Là, ce n'est pas le cas. Je pense que le corail il peut vivre indépendamment. Non ? Donc, c'est une vie symbiotique, alors.
Vous n'avez pas suivi ce que j'ai raconté,
ah, d'accord.
Là.
Mille excuses.
Non, là c'est une vraie symbiose. Ils ont vraiment besoin l'un de l'autre pour leur survie. Et le corail, s'il expulse ses zooxanthelles, il va arriver, en fait, c'est vrai, vous avez un petit peu raison aussi, parce qu'il a 20% de son énergie qu'il peut récupérer via le zooplancton. Donc il arrivera à survivre 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine, mais ça ne suffira pas, en tout cas, pour combler ses besoins énergétiques. Il a vraiment besoin de ses zooxanthelles. Si, il y a échange de nourriture, en fait, à travers des éléments minéraux. Donc, les zooxanthelles vont donner du sucre, des glucides au polype, et le polype va donner de l'ammoniac et de l'azote, notamment, aux zooxanthelles. Donc, il y a vraiment un échange qui est obligatoire, c'est une vraie symbiose. Alors là, vous me posez une colle, c'est vrai. Pourquoi zooxanthelle, je ne sais pas. C'est vrai que ça aurait pu être...
Parce qu'il parlait des zooxanthelles, est-ce que ce sont des algues vertes? Et puis ma question, c'est par rapport à l'acidité, donc quel est le pH actuel de l'eau de mer normale, et si ça change beaucoup, et ce qui empêche donc peut-être la formation du récif, justement l'effet de l'acidité. Et puis si vous pouvez dire un peu les gorgones, ce que c'est, merci.
Alors, les algues, ce sont des dinoflagellés. Donc, ce n'est pas des algues vertes, c'est des cellules unicellulaires, enfin, donc des dinoflagellés. La deuxième question sur l'acidité, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très inquiétant à l'heure actuelle avec le changement climatique qu'on observe, l'augmentation, en tout cas, de la température à la surface de la Terre, peu importe les causes. Alors ce qui se passe, c'est que si vous avez l'acidité qui augmente, hein, donc de très peu même, donc avec le CO2 qui va être dissous dans le milieu marin, donc l'acidité qui augmente, et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution en fait de la saturation des ions carbonates. Donc sans rentrer trop dans les détails, mais ce qui se passe, c'est que ces carbonates vont être moins accessibles aux polypes et aux zooxanthelles. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il a besoin de récupérer des carbonates dans le milieu pour construire son squelette de calcaire. Et donc du coup, c'est un petit peu comme si qu'il y avait, moins de briques dans le milieu, en fait, pour que le polype construise son squelette. Et donc il y a des modèles, hein, qui ont prévu que d'ici 2100, les récifs coralliens perdraient 30% de leur capacité à calcifier, à construire leur squelette calcaire. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est inquiétant non seulement pour les coraux, constructeurs de récifs, mais aussi pour le plancton, hein, parce qu'il y a beaucoup qui est à la base des chaînes trophiques. Hein. Il y a beaucoup d'organismes dans le plancton qui ont une petite coquille de calcaire. Donc le plancton, les crustacés, pareil, les mollusques, hein, les coquillages, qui ont aussi besoin de ce calcaire. Et donc, avec l'acidification, il y aura de moins en moins de briques, en fait, pour que les animaux construisent leur squelette. Donc ça, c'est inquiétant. Troisième question, les gorgones. Alors les gorgones font partie aussi des cnidaires. Et en fait, ils construisent pas d'un squelette calcaire, mais ils ont de la chitine qui leur donne cette rigidité. Donc, mais ils n'ont pas de zooxanthelles non plus. C'est vrai que c'est un peu particulier. Ils ont des cellules urticantes comme les cnidoblastes. Donc c'est un peu, ils ont les caractéristiques des cnidaires, sauf qu'il n'y a pas de zooxanthelles comme chez les coraux constructeurs et qu'ils n'ont pas un squelette calcaire. Et on les trouve dans toutes les mers du monde, aussi bien en Méditerranée que sur les récifs coralliens.
Les
Ils sont aussi soumises aux conditions, aux variations du climat, mais ils sont, je pense, moins vulnérables que les coraux constructeurs de récifs, mais aussi les hydraires aussi. Donc toute cette famille de cnidaires, il y a des espèces un peu particulières qui, on observe des changements, des variations, mais le plus vulnérable, c'est vraiment le corail, le madrépore.
Question sans doute naïve, mais on parle de coraux bâtisseurs. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des coraux non bâtisseurs ?
Tout à fait. Donc c'est une question, mais tout à fait. C'est pour ça que j'insiste sur le terme de corail constructeur de récifs, parce que c'est les seuls, si vous voulez, les coraux non bâtisseurs, ben ça va être les coraux mous, le corail rouge, hein, le corail noir. Donc c'est, en fait, ce sont des autres espèces, hein, d'autres groupes de coraux, mais qui n'ont pas la particularité de faire ces colonies énormes, hein, que font après la reproduction, vous avez une petite colonie qui commence et qui peut devenir très, très grande et qui meurt au bout d'un moment, mais la surface reste toujours vivante. Donc c'est comme ça qu'ils grandissent, en fait, au cours du temps. Et elles ont vraiment la faculté de s'agglomérer et d'être colmatées par des algues, par des petites coquilles de coquillages, etc. Donc c'est dans ce sens-là que je parle du terme de corail constructeur de récifs, parce que c'est uniquement ces madrépores qui ont cette capacité à construire des récifs coralliens. Mais vous avez aussi des petits... c'est vrai qu'on parle de corail en Méditerranée, je crois que c'est à plus à des centaines de mètres de profondeur. On trouve aussi du corail... Mais il n'est pas constructeur de récifs. On parle de récifs, mais c'est pas tout à fait un terme qui est adapté. Ils n'ont pas évidemment de zooxanthelle parce que y a pas de lumière. Donc le corail constructeur de récifs, c'est vraiment l'animal, grâce à la symbiose, c'est vraiment la particularité de ces madrépores, cette symbiose va leur donner l'énergie nécessaire pour construire leur squelette calcaire et d'élaborer ces gigantesques constructions. Je vous dis, ça va jusqu'à 200 mètres de hauteur. À la base, vous avez des animaux qui font quelques millimètres. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine sur des millions et des millions d'années et qui peut être anéanti en 100 ans, quoi, en 10 ans, en 20 ans. C'est à l'échelle qu'on observe les dégradations à l'heure actuelle. C'est, ils construisent, ouais. Oui, il y a, en fait, c'est vrai que ça fait partie du cycle naturel, hein, il y a des augmentations du niveau marin, des diminutions, donc ça c'est le cycle des glaciations, même dans les derniers millénaires. Donc il y a eu des récifs qui ont été détruits, qu'on observe aussi à l'heure actuelle, il y a aussi la tectonique, hein, des plaques qui fait que vous avez des récifs qui sont en surface à l'heure actuelle. Je crois que pas très loin d'ici, vous allez du côté de Montpellier ou je sais plus, enfin dans la région, en Méditerranée, vous avez des coraux qu'on trouve dans les roches, en fait. Donc ces récifs ont été détruits de manière à cause du changement climatique. Il a fait plus froid ou plus chaud, la mer est montée et descendue, etc. Donc voilà. Donc après, c'est vrai, quand on replace à leur contexte actuel, c'est vrai que dans l'absolu, on peut se dire bon, ça fait partie de l'évolution normale des choses, mais en fait non, à l'heure actuelle ça ne fait pas partie de l'évolution normale, puisque les changements vont beaucoup trop vite, en fait, et les animaux ont plus la capacité à s'adapter. Mais ce qui est inquiétant, bon, c'est vrai qu'on voit des destructions, je parle des récifs, il n'y a pas que les récifs, il y a plein d'autres choses, mais la Terre dans l'absolu, elle s'en remettra, elle en a vu d'autres. Je pense que la question qu'on a plus à se poser, c'est notre avenir à nous, quoi. Mais ce qui n'empêche pas de se défendre, de se battre pour protéger ces milieux. Vous voyez, c'est... là, je déborde un peu de la question, mais... dans le temps, et plus j'ai envie de travailler sur des programmes très appliqués, donc plus sortir un peu de la recherche fondamentale pour plus faire de la recherche appliquée. Et donc notamment à travers des programmes liés à la gestion des récifs, donc par exemple à La Réunion qui est une petite île avec un petit récif corallien et avec bientôt près d'un million d'individus qui vont vivre sur l'île. Donc les problèmes sont exacerbés, hein, entre protection, gestion, économie, c'est extrêmement compliqué. Mais en même temps, bon, il y a une aire marine protégée qui a été créée, une réserve naturelle qui a été créée il y a 3 ans à La Réunion. Donc, on travaille beaucoup avec les pêcheurs. Moi, je travaille beaucoup avec la réserve marine de La Réunion. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, en tout cas pour les échanges, pour qu'il faut arriver à... C'est très compliqué. C'est vrai que travailler en Calédonie, c'était plus facile. Parce qu'en Calédonie, il y a 1600 km de barrière avec, je crois que c'est 10 habitants au kilomètre carré. Enfin, on sort de Nouméa, il n'y a plus personne. Donc la gestion est plus facile. À La Réunion, c'est hyper compliqué. Mais il y a en tout cas des efforts qui sont faits justement pour échanger, en fait. Et les pêcheurs, c'est clair, ils n'ont pas... Ils sont pas prêts obligatoirement, ils sont pas prêts à tout lâcher, mais la gestion, en fait, c'est pas mettre tout sous cloche, c'est pas interdire l'accès aux récifs, c'est pas interdire de pêcher, c'est pas interdire d'aller se baigner, c'est pas ça, en fait. Faut sortir un peu de l'idée de la cloche qu'on met sur un écosystème où on empêche tout, non. En fait, l'homme fait partie de l'écosystème, donc il faut arriver à trouver des solutions, comme notamment, bon, il y a par exemple un sentier sous-marin. Donc, moi, je considère un petit peu le récif de La Réunion comme un jardin public avec des zones où on a le droit d'aller. Si on veut faire de l'exploration, il y a un petit sentier, les gens, il faut qu'ils aillent là. Il y a des zones où la pêche est autorisée. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je parle de gestion. Et c'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est un beau challenge. Je pense qu'il y a une bonne dynamique à La Réunion, en tout cas. Enfin, je le sens comme ça, quoi. Même si c'est difficile.
Bonjour, je voulais juste rebondir sur l'histoire de l'acidité. La polémique, elle est close là-dessus. Il paraît que c'était aussi une opportunité. Donc je voulais savoir, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand vous dites que les massifs peuvent faire 200 mètres de haut. C'est le même squelette qui fait 200 mètres de haut ou c'est des squelettes qui se recouvrent les uns les autres?
Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. En fait, c'est pas le même squelette. C'est vraiment l'accumulation des squelettes pendant de petites colonies ou de grosses colonies pendant des millions d'années. Donc, c'est pas la même colonie. Donc, ça, c'est une même colonie. Je pense qu'il y a des carottages sur des colonies qui font, je pense que c'est 8-10 mètres de diamètre au maximum. Donc, c'est pas les 200 mètres, mais c'est vraiment les squelettes qui se sont accumulés au cours du temps. La deuxième question sur l'acidité, alors c'est vrai que c'est aussi, c'est pas très clair. En tout cas, c'est vrai que quand les expériences sont faites en aquarium, parce qu'en fait on peut faire que ça, parce que l'acidité à l'heure actuelle, il y a une augmentation d'acidité, mais qui est quand même relativement faible. En tout cas, quand les expériences sont faites en aquarium, c'est clair que les coraux n'arrivent plus à calcifier, ils deviennent pas tout mous, mais presque. Par contre, quand on retranscrit ça dans le milieu naturel, on maîtrise pas tous les paramètres, donc on connaît pas non plus les capacités d'adaptation des individus, des espèces. C'est sûr que de manière générale, on dit que l'acidité est vraiment inquiétante, hein, aussi bien pour les coraux que pour les organismes à squelette calcaire. Mais dire à 100% que, tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre, à l'horizon 2100, 30% de la calcification va être diminuée sur les récifs coralliens, tout ça, c'est issu de modèles. On ne maîtrise pas tout, en fait. Donc, c'est pas aussi simple que ça.
Il y a encore une question. Moi j'ai une question d'enfant.
J'aime bien les questions d'enfant.
Il y a un truc que je n'ai pas compris au niveau de la reproduction. Vous avez parlé donc de la reproduction asexuée avec le bourgeonnement, mais dans la reproduction sexuée avec gamètes mâles et femelles, est-ce que ça veut dire qu'il y a du corail mâle et femelle? Et si oui, comment est-ce qu'on peut les distinguer? Ou bien c'est le même corail qui produit les deux types de gamètes?
Les deux. Donc en fait, il y a certaines espèces où le corail va en fait produire des spermatozoïdes dans un premier temps et des gamètes mâles et femelles. Il y a d'autres espèces où c'est donc de manière pas synchrone, hein, différée dans le temps. Il y a certaines espèces qui arrivent même à faire de la fécondation dans leur petite cavité gastrique, là, qu'on voit à l'intérieur. Vous avez carrément, donc, c'est des œufs qui sont fécondés, qui sont expulsés. Et puis, il y a certaines espèces, donc, il y a des individus mâles qui produisent des spermatozoïdes et des femelles qui produisent des ovules. Donc, voilà, c'est un peu... et puis on n'arrive pas à voir, on n'y voit rien en fait. On imagine en fait quand il y a la reproduction, c'est vrai qu'il y a, on voit bien des fois il y a des colonies qui expulsent plus un petit film qui est diffus et puis d'autres des petits œufs. Donc c'est plus par l'observation visuelle qu'on devine que c'est plus des spermatozoïdes ou des œufs.
C'est pas lié au type de
aux individus.
Genre, branche ou boule.
Non, c'est pas lié au coraux branchu. C'est super compliqué en fait. Il y a même des acropores, hein, les genres acropora qui auront différents types de reproduction. Et donc la reproduction sexuée, c'est pas du tout le bourgeonnement. Hein, c'est vraiment. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est tout à fait. Ah ça, je partage complètement votre opinion. Plus j'apprends des choses, plus je me rends compte que je sais pas grand chose, quoi. Mais bon, c'est peut-être aussi ce qu'on appelle la sagesse aussi quelque part, de garder beaucoup d'humilité par rapport aux choses. Merci.